Voilà, ravi de vous rencontrer. On a une soirée passionnante. Moi, c'est un des sujets qui me pousse le plus à l'humilité et paradoxalement, un des sujets où je m'y connais le moins, parce qu'en fait, c'est difficile de s'y connaître, mais un sujet vraiment moi, à titre personnel, je trouve passionnant et de le préparer m'a amené à replonger dans certaines choses qui m'ont vraiment passionné et j'espère pouvoir vous transmettre le plaisir que j'ai eu et que vous allez prendre aussi du plaisir ce soir. Au menu de ce soir, nous allons premièrement essayer de comprendre notre sujet et de comprendre ce qu'on appelle les décrets de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par là et comment Dieu exprime sa volonté dans les Écritures. Vous allez voir qu'elle est exprimée de différentes façons. Dire la volonté de Dieu, c'est Dieu veut ci ou Dieu veut ça, c'est pas si facile que ça en a l'air. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'il y a une compatibilité entre les décrets de Dieu, donc c'est-à-dire sa volonté souveraine, où Dieu décide de absolument tout, et notre responsabilité. La Bible dit que nous sommes vraiment responsables et dit que Dieu est vraiment souverain. Et ça nous semble totalement irréconciliable et totalement, très difficile pour notre esprit de comprendre. Mais on va voir comment la Bible, elle, nous parle de ça et nous permet de réconcilier ces deux notions-là, ces deux vérités-là. Ensuite, nous allons traiter deux objections. La première sera celle-ci, comment Dieu peut-il décréter le mal sans en être lui-même responsable? Si Dieu est souverain sur le mal et qu'il le permet ou même qu'il l'ordonne, osons carrément le mot, comment Dieu pourrait-il ordonner le mal sans lui-même être pécheur, sans lui-même être mauvais? Voilà, c'est une objection qui est souvent accordée, une question que nous-mêmes on se pose dans notre vie chrétienne. Et une deuxième objection à cela qui est, si Dieu décrète tout, sommes-nous moralement responsables de nos fautes? Si Dieu a décrété qu'on allait faire le mal, quand on le fait, sommes-nous responsables? Voilà. Et puis nous tenterons de conclure. Tout au long de ces quatre parties, on essaiera de dégager des pistes de réflexion, enfin en tout cas des applications concrètes et voir comment c'est cette réflexion théologique nourrit, alimente notre foi au quotidien. Je prie. Éclaire-nous, Seigneur. Permets-nous par ton esprit de comprendre les merveilles de ta parole. Clairement, ce soir, on rentre dans des choses qui nous dépassent. Et on ne peut pas comprendre à quel point tu es souverain, c'est immesurable pour nous. À quel point tu es Dieu. Seigneur, je te prie pour que ça ne soit pas pour nous simplement un exercice intellectuel, qu'on n'est pas là pour se nourrir l'esprit ou développer une culture générale. Mais au-delà de ça, Seigneur, on veut t'aimer encore plus, t'adorer et te connaître. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à ne pas raisonner simplement à partir de notre réflexion, de notre intelligence, mais à partir de ta parole et à accepter ce que ta parole nous dit de toi. Et Seigneur, nourris-nous ce soir. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Amen. Bien. Alors, vous allez voir, c'est un puzzle que nous allons devoir résoudre et voir comment les différentes pièces de ce puzzle rentrent en place. Mon objectif, vraiment, est de nous encourager à redécouvrir Dieu et à redécouvrir l'étendue de sa souveraineté, parce que c'est quelque chose, on le sait, on le dit, on y pense souvent, on sait que Dieu maîtrise tout, mais à quel point il maîtrise tout, je crois que c'est quelque chose qui nous dépassera toujours. Il n'y a que Dieu qui se comprend lui-même et qui peut contempler sa propre souveraineté. Nous, on l'entrevoit à peine. Alors, premièrement, nous nous allons voir ce que la Bible nous dit à propos des décrets de Dieu. Et avant ça, je vous propose une définition que j'ai prise et j'ai trouvée, c'est la plus simple que j'ai trouvée dans la Confession de foi de Westminster qui dit ceci. Les décrets de Dieu sont, et alors il y a une coquille, hein, je le vois, sont ses desseins éternels selon le conseil de sa volonté, par lequel, pour sa propre gloire, il a ordonné à l'avance tout ce qui doit arriver. C'est un petit peu abstrait peut-être, mais vous allez voir, ça va devenir plus clair par la suite. Donc les décrets de Dieu sont ses desseins, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé d'avance. Selon quoi est-ce qu'il a décidé d'avance ? Eh bien, simplement selon sa propre volonté, c'est-à-dire en autonomie totale, rien ne vient de l'extérieur interférer ou influencer le choix de Dieu. Il est totalement libre de choisir et il ne décide qu'en fonction d'une chose, c'est sa sagesse éternelle et sa volonté. Et donc, tout ce qu'il décrète arrive. Alors, quand on parle de la volonté de Dieu, il faut s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Dans les Écritures, la volonté de Dieu est exprimée de deux grandes façons. Alors, les théologiens ne sont pas tous d'accord, il y a des classifications un petit peu différentes, mais moi je vous partage celles qui me semblent les plus logiques et qui correspondent à notre confession de foi aussi. Tout d'abord, il y a la volonté prescriptive. Pensez à une prescription, une ordonnance d'un médecin. La volonté que Dieu prescrit, que Dieu ordonne, que c'est la volonté morale, les 10 commandements. Dieu veut qu'on l'adore, qu'on l'aime, Dieu veut qu'on ne mente pas, Dieu veut qu'on aime notre prochain, Dieu veut, etc., etc. C'est toute la volonté, donc ces commandements, la loi morale, à laquelle nous devons obéir. Donc, Dieu ne veut pas le mal, on est d'accord ? Quand on dit ça, on parle de la volonté prescrite, la volonté morale de Dieu exprimée. Mais il y a vous allez le voir, et ça c'est ce qui nous surprend dans les Écritures, aussi ce qu'on appelle la volonté décrétée, la volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire que selon son conseil de toute éternité qui nous dépasse, et une volonté qui englobe toute chose, y compris le mal. Quand le mal se passe, ce n'est pas quelque chose qui échappe à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur ce qu'il veut et est souverain aussi sur le mal que nous faisons. D'accord ? Donc ce qu'il faut bien comprendre dans les Écritures, c'est que parfois la volonté de Dieu va nous être exprimée comme sa volonté morale et parfois comme son contrôle souverain, même sur les actions qui s'opposent à sa volonté morale. Je ne suis pas clair ? Si ? Ah, pardon. Oui. D'accord ? Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus clair. D'accord ? Donc retenez ceci, c'est que la volonté de Dieu est exprimée parfois comme l'expression de sa volonté morale, et parfois, dans la Bible, comme l'expression de son contrôle souverain. Et Dieu ordonne des choses qui nous surprennent. Un exemple massif, comme ça, au lance-pierre, c'est le déluge. Dieu veut la vie, Dieu déteste le mal, Dieu a dit « tu ne tueras point », mais Dieu choisit, ordonne de tuer l'humanité en sauvant qu'une seule famille. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu plus, on va ensemble essayer de dégager 8 points essentiels de la volonté souveraine du décret, la volonté décrétée de Dieu. Voilà. Alors, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous afficher à chaque fois un texte, et vous allez essayer de découvrir quelle est la vérité essentielle à propos du décret de Dieu qui est soulevé dans le texte. On fait la première ensemble. Paul dit aux Éphésiens que en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Alors, à votre avis, voilà, et j'ai accentué sur un mot en particulier, c'est le tout. Et donc, Dieu décrète, hein, Dieu est souverain sur absolument toute chose. Le concept même de la souveraineté, c'est un concept qui est absolu. C'est comme si je vous dis tout ou rien. S'il n'y a rien, si vous mettez une chose, ce n'est plus rien. Vous voyez ? Et donc si Dieu n'est pas souverain sur tout, mais à 99% des choses, la notion même de souveraineté n'existe pas, elle est absurde. Si je vous dis que tout est là, mais qu'il manque quelqu'un, si vous dites toute la famille est réunie, mais il manque quelqu'un, non, ce n'est pas possible, c'est une vérité absolue, quoi. D'accord ? Donc, les décrets de Dieu s'appliquent à absolument tout ce qui existe, tout ce qui peut être nommé, tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être pensé même par l'homme. Deuxième vérité, souvenez-vous des premiers événements, dit Dieu au travers d'Ésaïe. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon. J'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Quel est le qualificatif que vous donnerez encore au décret de Dieu ? Tout simple. Vas-y Alain Pierre, je te sens chaud. Souverain, ouais. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Voilà, c'est ça. Donc, moi j'ai mis les décrets divins. Le décret divin est efficace. Dieu ne décide pas quelque chose qui ne peut pas arriver. Tout ce que Dieu décide arrive. Il connaît une réussite à 100%. D'accord ? Rien ne peut contrecarrer ses plans. Et là, ce texte, dans ce contexte-là, c'est quand Dieu appelle les Assyriens pour juger son peuple. Et l'image qui est donnée, c'est que Dieu siffle les Assyriens comme un homme siffle son chien. Allez, venez là, faites ce que je veux. Et les Assyriens, eux, pensent qu'ils décident d'eux-mêmes. Et ils sont responsables de ce qu'ils font. Hein, mais Dieu, derrière, dit, sur tout ce qui se passe, je suis souverain. On continue ? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je m'excuse, c'est Romains 11. J'ai sauté la... Romains 11, versets 33 à 36. Oui, c'est ça. Voilà, incompréhensible, c'est ce que j'ai mis. Ça nous dépasse, quoi. Comme Job, quand il se présente, quand Dieu lui révèle, se présente à lui, Dieu ne se justifie pas, mais Job il dit, ah ouais, ok, je mea culpa, c'est des choses qui me dépassent, quoi. D'accord, les décrets de Dieu nous dépassent. Notre compréhension, toute notre intelligence nous dépasse. Nous ne sommes pas l'égal de Dieu pour comprendre sa sagesse infinie. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors ça ne parle pas directement des décrets, mais à propos de qui est Dieu, et donc on peut raisonner à partir de ça, la conséquence sur ces décrets. Voilà. Oui, alors, oui, oui, clair, et là c'est dans le sens de que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres, Dieu est pur, Dieu est saint, il n'y a pas de mal en lui, pas de péché, Dieu est infiniment bon, on reviendra sur cette notion tout à l'heure parce qu'elle est importante, d'accord ? C'est que l'homme peut voir d'un mauvais œil à propos de Dieu, quoi, mais c'est lui déclare qu'il est parfait et que ses œuvres sont parfaites et bonnes en toutes circonstances. Cinquième vérité essentielle, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, mais je l'ai utilisé pour autre chose. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai mis précis et détaillé, dans le sens où Dieu n'a pas simplement décrété quelque chose de global, mais on le voit ici, le psalmiste dit « Tu as décrété aussi tout ce qui me concerne, moi, ma vie. » D'accord ? Donc c'est détaillé et intime va très bien. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est précis, ça concerne chaque chose. Dieu a décrété, enfin, je réfléchissais à ça, ça me rendait complètement dingue, on y reviendra, mais Dieu a décrété chaque arbre qui pousse. Parce qu'on peut, enfin, pensez à la forêt amazonienne. Chaque arbre pousse parce que Dieu l'a décrété. Et il est tel qu'il est parce que Dieu l'a choisi. Comme ça. Voilà. Chaque brin d'herbe, chaque flocon qui formait et tout ça, de toute éternité, Dieu l'a décrété. Voilà. Ouais, on prend un peu le vertige. Hein. Voilà, on continue. Celui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors là, je m'intéresse un peu à la temporalité. C'est de toute éternité et ça s'accomplit quand ? Quand ils disent, quand Paul dit qu'il nous a été donné à nous, c'est à nous, quoi. Donc ça a été, les décrets couvrent toutes choses, ont été formés de toute éternité, mais ils se manifestent dans le temps et l'histoire. Nous sommes spectateurs de la volonté souveraine de Dieu qui est en marche et que rien ne peut arrêter. Et dans l'histoire, si nous voyons un monde qui nous semble un peu aléatoire, eh ben, il faut se rappeler, les Écritures veulent nous rappeler que Dieu est constamment au contrôle de tout. Ce n'est pas qu'il a prévu un plan comme un architecte et qu'il aurait mis, et puis après il va voir, il revient à la fin pour voir si ça s'est bien passé. Non, Dieu est actif en permanence dans sa création pour accomplir sa volonté et il la manifeste. Septièmement, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que concerne le grand décret de Dieu ? Nathalie, tu l'as déjà soufflé tout à l'heure quand on parlait d'Éphésiens. C'est le plan de la rédemption. D'accord ? Il est absolument entre les mains de Dieu. Et Paul parle de réunion, tout est réuni. Et je ne sais pas qui était au groupe de dames quand on avait fait Éphésiens. Hélène, tu te souviens le mot ? C'était la récapitulation. Quand tu récapitules, tu résumes, quoi. Et ben là, c'est dans le sens, Dieu récapitule, le mot grec, c'est celui-là, Dieu récapitule tout en Christ. Tout est remis en ordre par l'œuvre de la croix. Les ennemis de Dieu sont jugés, ses élus sont sauvés, la nouvelle création arrive, enfin, tout est réglé, tout est mis en ordre par l'œuvre de la croix. Enfin, huitième point, vous aviez formé le projet de me faire du mal, dit Joseph à ses frères. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors, vas-y Michel. Ok, alors tu vas un peu plus loin. Là, ce que je soulignais moi juste, c'était que le décret divin est compatible avec la liberté de l'homme. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un projet qui a été formulé par les frères de Joseph. Hein. Vous connaissez, je pense, tous l'histoire, quand ils l'ont fait passer pour mort et vendu aux Égyptiens. Donc il y a eu vraiment une liberté, des actions, une réflexion, un projet qui a été mis en place, dont ils sont responsables. Ils ont agi librement, sans aucune contrainte. Et lui dit, Joseph a compris que derrière l'action délibérée de ses frères, mauvaise dans ce cas présent, eh bien Dieu accomplissait quand même sa volonté. Et ceci nous amène au deuxième chapitre de notre soirée, qui est cette notion de compatibilisme. Bon, le mot n'est pas trop compliqué, on comprend, hein, c'est compatible. C'est une compréhension de l'articulation de ces vérités. Tout simplement, je vous donne ma définition, c'est que la souveraineté divine absolue est compatible avec la valeur de l'être humain et ses choix, bons ou mauvais. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres vivants. Nos choix sont des vrais choix. Notre liberté est une vraie liberté, nous n'agissons pas sous la contrainte, et cette vérité-là est absolument compatible avec le fait qu'il ne se passe rien sans que Dieu l'ait décidé. Même le choix de vos chaussettes ce matin, vous les avez choisies librement, vous pouvez vous dire qu'on s'en fiche, eh bien Dieu l'a décrété de toute éternité. Et ce n'est pas une boutade. Et voilà, le choix de... Voilà, enfin, ça nous dépasse et ça pourrait presque porter à rigoler, mais n'empêche que c'est vrai. Alors certes, ça n'a pas une aussi grande importance que d'autres choses, hein, mais n'empêche que c'est totalement vrai. Est-ce que la Bible dit ça ? Je vous propose quelques illustrations bibliques que l'on a, qui nous présente que ces deux vérités dans la Bible sont parfaitement racontées de façon superposée sans que ça pose aucun problème. Quand Dieu a appelé Moïse et l'a envoyé à aller vers Pharaon pour libérer le peuple, Dieu a dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. » D'accord ? Donc, tous les prodiges sont déjà arrivés. Tu les feras devant le Pharaon. Et moi, que ferai-je ? J'endurcirai son cœur et il ne laissera point partir le peuple. » Dieu annonce, tu vas y aller, je vais te faire faire plein de prodiges qui devraient le faire céder, mais en même temps, je vais endurcir son cœur. Moïse y va, et nous voyons au chapitre 8 que le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. Et l'analyse de Paul en Romains 9, quand Paul regarde cet événement-là, il l'utilise pour rappeler que Dieu est absolument souverain de faire ce qu'il veut. Et Paul retient une chose de cet événement, c'est que Dieu endurcit le cœur de qui il veut. Et il l'a décidé, on n'a rien à se dire. No comment, on reviendra sur ce texte plus tard. Mais avant de voir, parce que dans une lecture rapide, dans le texte, on voit que d'abord, Pharaon résiste, et ensuite on a l'impression que du coup, puisqu'il résiste, Dieu décide de l'endurcir comme un jugement. Mais c'est oublier ce que Dieu a annoncé avant tous ces événements, où Dieu a décrété qu'il allait endurcir Pharaon. Et quand on voit la libération, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Dieu dit, quel est le but, pourquoi Pharaon s'était endurci. Eri, oui. Voilà, pour manifester sa gloire. Et donc Dieu manifeste sa gloire autant dans la libération de son peuple que dans la condamnation de ses ennemis. Dieu est autant glorifié quand il condamne ses ennemis que quand il sauve son peuple. D'autres illustrations. Dans les Proverbes, voici ce que dit Salomon. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Le cœur médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui a fermé ses pas. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alors le sort a été jeté, c'était quelque chose pour faire des choix avant la Pentecôte, avant tout ça, il y avait cette tradition dans le peuple où ils jetaient comme des dés. Et ce que dit Salomon, c'est que les dés sont jetés par les hommes et en fait, hop, eh ben, ce qui arrive, c'est la décision de l'Éternel. Donc pensez à ça quand vous jouerez au Monopoly. À chaque fois, eh ben, vous avez fait un double 6, Dieu a voulu que vous fassiez un double 6 de toute éternité. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Et je sais que nous, quand on travaille avec les anciens et qu'on réfléchit sur les projets, quand tu penses à la responsabilité de diriger l'Église, tout ce que tu fais, te rappeler ça et te dire que, au final, Dieu est souverain et nous, on aura réfléchi, on aura fait des choses et puis Dieu, lui, aura accompli sa volonté. Quoi. C'est pas mal. Ok. Et avant de passer à un autre exemple, je vais citer un autre exemple qui est vraiment positif et que je veux positif. C'est que je crois que ces illustrations qu'on a dans les Écritures qui nous disent que nous avons des vrais choix, une vraie responsabilité et que Dieu est vraiment souverain, nous en tant que chrétiens, ça doit nous encourager à une chose, c'est à une foi courageuse. Et il y a un exemple que je n'avais jamais remarqué jusqu'à ma dernière lecture de Samuel, c'est quand David envoie Joab, un de ses guerriers, combattre, et Joab a un frère qui s'appelle Abikaï. Les deux se retrouvent à la bataille ensemble, et voici ce que dit Joab à son frère. Chacun doit aller, et il lui dit, en gros, toi tu prends à droite, moi je prends à gauche. Et il dit ceci, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les Ammonites sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois fort, fortifions-nous pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Il faut qu'on décide, on n'a pas tout en main, Nous, on ne sait pas ce qui va se passer, on doit prendre du risque. Et vivre par la foi, ça veut dire nécessairement prendre des risques. On prend des risques et derrière, on est conscient que Dieu accomplira sa volonté souveraine. Voilà, je trouve juste cette petite vignette merveilleuse et qui doit nous encourager à avoir une foi courageuse, à être ambitieux à titre personnel dans notre vie chrétienne et en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu, quoi. L'exemple, maintenant, le plus important, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans les Écritures, mais il n'y a pas de plus grand exemple de ce qu'il s'est passé à la croix pour illustrer que la volonté souveraine, éternelle de Dieu est compatible avec la liberté des hommes et même ce qu'ils font de pire. Quelle a été la pire chose jamais commise par l'homme ? La crucifixion de Christ. Le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Dieu veut qu'on aime Jésus. Quand Jésus vient, Dieu, il veut être aimé. C'était notre devoir de l'aimer. Pourtant, on l'a tué, c'était sa volonté, et grâce à ça, il nous sauve. C'est complètement dingue. Regardez comment Pierre prêche et comment cette notion-là de compatibilité entre ces deux vérités revient et est présente dans sa prédication. Trois extraits que je vous ai mis en enfilade dans les premières prédications de Pierre. Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, donc décret éternel de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par les mains des impies. Responsabilité de l'homme. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, responsabilité humaine, ainsi que vos chefs. Mais Dieu, de la sorte, accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance. Vous étiez responsable, mais Dieu avait décrété ça. Accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Pierre, quand il prêche à son public, il leur dit « Vous êtes absolument responsables ». Et Dieu était absolument responsable. Dieu était aux manettes. Et dans votre folie, Dieu vous a utilisé pour accomplir son plan éternel. Ah, vous ne l'aviez pas le texte ? Ah, d'accord, ok. Non, mais j'ai eu un bug. Alors, vous voyez, intellectuellement, ce sont des notions extrêmement compliquées pour nous. D'accord ? Mais bibliquement, c'est simple. Alors, on n'a pas une démonstration trop complexe à faire. Les textes sont clairs là-dessus. On n'a pas, ça ne relève pas d'une science biblique et théologique extrêmement compliquée. Du moment qu'on est dans le constat, eh bien c'est plutôt simple. Mais à partir du moment où on essaie de raisonner avec ça, ça devient très compliqué. Dieu est donc 100% souverain de l'histoire, et l'homme est 100% responsable de ses actions. Ce que dit Tim Keller à ce sujet, j'aime bien, il le formule de façon claire, il dit « Le plan de Dieu se déroule à travers nos choix et non en ayant besoin de les contourner. » Le plan de Dieu se déroule à travers nos choix et non en ayant besoin de les contourner. Alors, évidemment, quand on pense à tout ça, on arrive à devoir formuler l'objection à laquelle on pense tous. intellectuellement, on est obligé de se la poser cette question. Comment Dieu pourrait-il le décréter le mal sans être mauvais ? Parce que nous concernant nous, si nous on décide de faire quelque chose de mal, Dieu dit qu'on est responsable et qu'on est punissable. Alors pourquoi ça serait différent avec lui ? Et c'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. Alors, premièrement, je voudrais rappeler ceci, c'est que vouloir le mal, c'est un terme qui est équivoque. Quand on dit que Dieu veut le mal, hein, si on pense à, on a du mal à le formuler, mais moi dans ma bouche, je vous dis, c'est difficile de dire ça en plus derrière un micro, que Dieu veut le mal, ça me demande un exercice fou, mais quand je repense à la croix, oui, Dieu a voulu faire souffrir le Fils. Ésaïe 53 nous dit, Dieu a voulu le mal, a voulu que le Fils soit méprisé, rejeté, il a pris plaisir à la souffrance. Hein. Vouloir le mal, est-ce que c'est une volonté au sens de commandement ? Est-ce que Dieu veut que l'on pêche ? D'accord ? Comme je l'ai déjà dit, la volonté de Dieu est présentée parfois comme l'expression de ses normes morales, de ses commandements, hein, de sa volonté morale. Et parfois, elle nous est présentée comme étant son contrôle souverain, même sur les actions qui s'opposent à ses propres commandements. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que Dieu utilise le mal et décide de l'utiliser pour quelque chose qui nous dépasse, quoi. La Bible démontre que Dieu décrète providentiellement des choses qui sont contraires à ce qu'il prescrit et commande. Tout simplement, c'est un constat, quoi. C'est difficilement compréhensible que je vous propose avant de regarder, par exemple, des textes qui nous parlent de ce qu'on appelle le mal naturel. Alors, ça aussi, c'est un problème, c'est que pour nous, en français et dans beaucoup de langues, le mot mal, c'est aussi un mot valise. Le mal, ça peut être quelque chose de mal qui arrive, c'est quelque chose de négatif dans ce sens-là, comme par exemple un tremblement de terre, donc on parle de mal naturel, et il y a le mal, quelqu'un qui te veut du mal, vous voyez, qui relève du péché. Hein. Il y a le mal qui est la conséquence directe de la chute, c'est qu'on est mauvais, on veut faire du mal, et le mal qui est une conséquence indirecte de la chute, c'est qu'on est dans un monde qui est brisé, qui souffre, et du coup, et ben, il peut arriver des maladies, des catastrophes naturelles sur tout le monde sans qu'on ait forcément fait quelque chose, et un mal qui est injuste, profondément injuste. Regardez ce que dit Amos, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Question rhétorique. S'il arrive un malheur sur une ville, Dieu en était l'auteur. Qui est celui qui a dit « et cela fut » ? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande ? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens ? Implication pratique de cela. Comment répondre par la foi à un Dieu qui décrète qu'il va m'arriver du bien et quand il m'arrive quelque chose de mal, de mauvais, de négatif dans ma vie, eh bien je sais qu'il l'a décrété pour moi de toute éternité. Voilà. Et vous savez que on est nombreux dans l'Église à passer par et c'est pas fini, on y passe tous à un moment ou à un autre par des grosses épreuves. Il y a un verset que je n'ai pas noté mais qui me plaît beaucoup, c'est qui nous rappelle que quand on est dans un monde qui semble livré au chaos, un monde en souffrance, déjà on doit se rappeler que Dieu est souverain. Le mal n'arrive pas ultimement, la cause ultime du mal n'est pas le fruit du hasard ou n'est pas un Dieu qui est impuissant, mais derrière tout mal il y a Dieu qui demeure souverain. Et le verset qui me rappelle ça, et que je me suis rappelé régulièrement, « L'Éternel siégeait lors du déluge. L'Éternel siège en roi pour toujours. » Psaume 29, 10. Le 29, 10. Au pire moment de l'humanité, catastrophe qu'on ne reverra jamais avant le jugement dernier, eh bien Dieu était sur son trône. C'est merveilleux. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question, hein. Dieu est-il mauvais s'il décrète que le mal doit arriver ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que de voir que Dieu lui-même répond à cette question par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, je vous affiche un texte, mais je pense qu'il faut lire quelques versets avant. C'est dans Romains 9. Quand Paul parle de la souveraineté de Dieu et sur le jugement qu'il exerce sur Israël. Dieu parle de l'élection et je vais juste lire à partir du verset 12. Quand donc Paul utilise des passages de l'Ancien Testament, du récit, de l'histoire du peuple d'Israël, pour souligner que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. D'accord ? Et donc, il en fut ainsi de Rebecca. « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qui est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Rien qu'en disant ça, Paul veut qu'on se rappelle une histoire, c'est un flash, d'accord ? Vous vous souvenez, c'est un flashback dans l'histoire. Normalement, son frère né en premier a le droit d'aînesse, mais moi, avant même qu'il naisse, j'ai décrété que ça sera différemment. Et comment est-ce que ça va se produire ? Par des désobéissances et des péchés accumulés de Jacob. Mais Dieu avait décrété ça. Que dirons-nous donc ? Et là, Paul, quand il écrit, il ne peut pas s'empêcher. Il dit forcément, il va y avoir une objection. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes, non. Alors là, c'est marrant parce qu'on ne s'attend pas à ça comme argumentation. Paul dit, « Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Quel est l'argument de Paul ici ? Dieu est-il injuste ? Non. Et derrière, il dit quoi ? Et il fait ce qu'il veut. Alors, si tu dis dans une discussion dans la rue, tu t'argumentes comme Paul, on va te dire, mais toi, enfin, vous voyez, il faut revoir un petit peu ton apologétique, quoi. D'accord ? Mais ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu, ce que veut dire Paul, la vérité que souligne Paul, c'est que Dieu peut vouloir qu'un mal intervienne sans pour autant avoir commis quelque chose de mal. Dieu n'est pas injuste, dit Paul. Il est juste et il fait ce qu'il veut. Et simplement, vous verrez la suite du texte, on y reviendra tout à l'heure. Qui on est pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? Qui sommes-nous ? Ça nous fait encore violence, hein, mais petit à petit, vous allez voir, je pense que ça va décanter. Ce que souligne Paul ici, avec vigueur, hein, il n'y a pas d'injustice en Dieu, faites attention, il y a une mise en garde de dire que Dieu est injuste. Et il rend là témoignage à l'ensemble des Écritures. Une autre vérité des Écritures, c'est que Dieu est absolument parfait. Hop, je reste ici. Imputer à Dieu la responsabilité du péché est un péché. Jean 1:5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Nous l'avons lu tout à l'heure. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car il ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ne vous y trompez pas, verset 16, « Mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Paul, aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Celui qui n'a pas connu le péché. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, 5. Ésaïe 6, 3, quand Ésaïe voit Dieu et voit les anges qui disent « Saint, 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 la terre est remplie de sa gloire. » D'accord ? Dieu est le Père des Lumières, Dieu est absolument parfait, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu est dans l'incapacité de transgresser sa propre loi, sa propre moralité, puisqu'il est parfait et saint, et donc Dieu est dans l'incapacité de pécher dans ses motivations. Donc, si Dieu veut le mal, c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il le veut parfois, il le décrète, sa motivation n'est pas le péché. C'est ce qu'il faut retenir pour le moment. Dieu, en tant que souverain et l'auteur, va utiliser des moyens, mais lui-même n'est pas pécheur dans ses motivations. Alors, du coup, concrètement, comment Dieu agit-il quand il décrète le mal ? J'affirme ceci. Quand Dieu décrète le mal, en réalité, c'est qu'il prive en refusant d'accorder sa grâce qui empêcherait qu'un mal se produise. Dieu agit, en gros, en restreignant la progression du mal, constamment. Dieu limite dans sa grâce et sa miséricorde qu'il accorde à tous les hommes, Dieu limite le mal et ne laisse pas l'homme produire tout le mal qu'il souhaite. C'est ce qu'on appelle la providence divine. D'accord ? Heureusement que Dieu limite le mal qui est en nous tous. Eh bien, Dieu, des fois, simplement décide d'arrêter de limiter pour que le mal se produise dans un but supérieur. Je vais l'illustrer. D'accord ? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'homme est sous l'esclavage du péché et sans l'intervention de Dieu, il ne peut rien faire de bon par lui-même. Et que malgré l'esclavage du péché, Dieu manifeste sa bonté en ne laissant pas l'homme se livrer à toutes ses convoitises, à toutes ses pulsions. Sinon, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là, quoi. Hein ? Voilà. Et donc Dieu, en fait, ça nous rappelle à quel point Dieu est un Dieu de grâce, constamment. Ou si Dieu nous traitait comme on le mérite, et on a dans les Écritures quelques flashs comme ça, avec Ouza, vous savez, qui a touché l'arche, avec ceux qui ont menti à Pierre, où Dieu les a foudroyés sur le monde. Si Dieu nous traitait comme il le devrait, alors, sans grâce, eh bien, on serait foutus. J'aime bien cette phrase d'Henri Blocher qui dit « Le mal relève de l'usage de la liberté créée. » Simplement, l'homme étant libre produit le mal. Et donc, si Dieu ne le restreint pas dans sa production du mal, eh bien, l'homme y va à fond. Ce qu'on utilise, ce que l'on dit, pour illustrer ça, on appelle ça des causes secondaires. Dieu fait intervenir des causes secondaires qui vont commettre le mal. Un exemple. Alors, je m'excuse, je dois juste vérifier mon PowerPoint parce que... Hop, 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 hop. Voilà. Il répond lui-même. Voilà. On reste là. Si vous voulez prendre dans le livre des Juges, chapitre 9, versets 22 à 25. Juges 9. Verset 22. Abimélec fut prince pendant 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem. Et les notables de Sichem trahirent Abimélec. En retour de la violence commise sur les 70 fils de Yérubaal, et afin que le sang retombe sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués sur les notables de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les notables de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, mais cela fut rapporté à Abimélec. Un autre exemple, celui de Job, où Satan va faire du mal à Job, mais derrière, Dieu est souverain, et finalement, Dieu fait éclater sa gloire. Un autre exemple, celui de Judas, en Luc 2, versets 3-4. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Est-ce que Judas faisait partie du plan de Dieu pour la croix ? Oui, mais qui a agi ? Satan. 2 Corinthiens 4, 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce siècle, encore une fois, c'est Satan. Et que ces personnes-là sont voilées à cause de Satan qui ne leur permet pas de comprendre l'Évangile. D'accord ? Donc, d'une manière générale, Dieu utilise des agents de la création, que ce soit des hommes, que ce soit Satan, les démons, etc., qui agissent à l'encontre de sa volonté morale, hein, qui font du mal. Mais Dieu les utilise malgré cela pour arriver à ses fins. L'exemple de Pharaon, encore, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment un cas d'école, c'est le premier qu'on a dans les Écritures si claires. Ce que Dieu dit à Pharaon, c'est quoi ? La fameuse phrase qu'on chante. « Laisse aller mon peuple. » D'accord ? Dieu commande à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Et en même temps, Dieu endurcit Pharaon pour faire éclater une gloire encore plus grande. Et à quel point Dieu est un Dieu libérateur. Ok ? Donc, il y a des contradictions en apparence, mais ce que les Écritures nous montrent, c'est que Dieu va au-delà. Dieu vise un but plus grand que nous ne comprenons pas toujours et qui ne nous est pas toujours révélé. Pourquoi je souffre ? J'ai été invité il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais à Lyon pour faire une conférence d'apologétique sur cette question-là. Et c'était la question que les gens autour de l'église de Pontcherry posaient. Pourquoi je souffre ? Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui est venue me voir et qui voulait, qui attendait de moi, une chrétienne, vraiment que je puisse lui révéler pourquoi elle souffrait. Je lui ai dit, je ne sais pas, madame. Et c'était je pense, la plus sage des réponses que je pouvais lui faire. Pourquoi je souffre? Je ne sais pas. Les choses que Dieu utilise me dépassent. On ne comprend pas les raisons de la souffrance. Parfois, la souffrance est directement liée à un péché, effectivement. Mais bien souvent, dans les Écritures, la souffrance nous est présentée comme étant injuste. Même, regardez les psaumes, où, combien de fois la question, psaume 73, psaume 76, pourquoi est-ce que le juste souffre et le méchant, lui, il vit tranquille? Alors, oui, alors, non, mais alors tu parles du but, moi je parle de la cause. Tu vois, c'est autre chose. Pourquoi je souffre? C'est pas dans quel but, on va y venir, mais c'est la cause. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui... Je dis, on ne peut pas savoir. Mais dans notre expérience, nous ne reconnaissons pas tous les moyens, mais au travers de textes comme ceux qu'on vient de voir, Dieu nous révèle une chose, c'est que lui est toujours à l'œuvre derrière. Et que nous savons, nous en tant que chrétiens, comme le dit Paul, que Dieu est pour nous. D'accord ? Dieu est pour nous. Et c'est ça la seule chose que je pouvais rappeler à cette dame. Les causes de la souffrance ne sont pas... On n'est pas dans un monde où il y a une lutte cosmique entre Satan et Dieu, où il y a un dualisme, où on ne sait pas qui va remporter la victoire. Non, Dieu est au-dessus de tout et il est absolument souverain, rien ne le dépasse. Et quand je souffre, je ne sais pas peut-être les causes, mais en tout cas, je me rappelle d'une chose, c'est que Dieu est aux manettes. Comme je le disais, il n'y a pas de contradiction, il y a des contradictions, mais en apparence seulement. Dans le projet bienveillant de Dieu, de toute éternité, eh bien, il n'y a pas de contradiction. Simplement, Dieu vise et sait instrumentaliser le mal pour servir un but qui est plus grand. En gros, il ne veut pas le mal en soi, mais pour ce qui en résultera. Par exemple, on peut faire des actions mauvaises ou qui font mal à quelqu'un, mais avec de bonnes motivations. Quand un parent reprend son enfant, l'enfant ne comprend pas pourquoi, mais le parent va faire mal à son enfant, d'accord, va le punir, va le châtier, ce que vous voulez, dans un but qui dépasse pour le moment la compréhension qu'on a à l'enfant. Quand vous n'y connaissez rien en médecine, et que vous vous retrouvez face à un médecin et vous avez une grave maladie qui veut vous soigner et qui vous dit, bah, vous savez quoi, pour votre bien, je vais vous couper la jambe pour vous sauver la vie, on ne comprend pas, ça nous dépasse. Et le médecin va nous faire du mal, mais pour un bien qui est plus grand. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. Et c'est la seule réponse que nous donnent les Écritures à ce sujet. Mais on sait que Dieu utilise ça pour un bien plus grand. Regardez, le plus grand des péchés de l'humanité, Dieu l'a-t-il pas, au travers de celui-là, Dieu ne fait-il pas surabonder la grâce pour nous? Si le plus grand mal n'avait jamais été causé, comment est-ce que nous, on serait sauvés? Eh bien, on ne le serait pas. C'est ce que dit Paul. Dieu utilise le mal de nos propres circonstances pour faire abonder la grâce envers nous. Et c'est ce dont parle Paul quand il parle de son expérience, que Dieu a causé, et là c'est la question du but, que Dieu a utilisé ça pour faire abonder la grâce dans la vie de Paul. Et il y en a plein de textes. N'avez-vous jamais vu Dieu utiliser le mal pour votre propre péché pour arriver à un bien ? Combien des fois on a péché, on a fait quelque chose de mal et derrière Dieu a utilisé ça pour nous sanctifier, pour nous faire progresser, pour nous humilier et pour derrière nous relever, nous faire progresser. on le vit dans notre piété et dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu finalement, ce n'est pas un si grand problème que ça. J'ai oublié, juste, hop, pardon, je m'excuse. Voilà, je frise ici, et je voudrais juste très courtement aborder la deuxième objection, mais elle est simple pour nous, c'est est-ce que le fait que Dieu finalement décrète toute chose annule la responsabilité de l'homme ? Paul y répond dans la suite de Romains. C'est fou parce que c'est deux grandes objections que nous avons tous et Dieu y répond clairement au travers de ce que dit Paul. Si vous voulez juste lire à partir du verset 19 de Romains 9. Paul dit, après avoir expliqué que Dieu fait ce qu'il veut et qu'il ne se justifie pas, mais qu'en tout cas, il n'est pas l'auteur du mal. D'accord ? Il n'est pas injuste. Deuxième objection, tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer ? Formulation, enfin, pourquoi Dieu encore en veut aux hommes ? Car qui résiste à sa volonté, hein, s'il est complètement souverain ? Pourquoi est-ce qu'il nous blâme ? Toi plutôt, répond Dieu au travers de Paul. « Qui es-tu pour discuter avec Dieu ?» Le vase modelé dira-t-il au modeleur « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ce que dit Paul, c'est que les décrets de Dieu sont complètement compatibles avec la responsabilité de l'homme et que Dieu ne se justifie pas. Ésaïe 10. « Les Assyriens font le choix d'attaquer » le peuple de Dieu, mais Dieu dit qu'il les envoie dans son jugement. Et suite à ça, quand les Assyriens font les fanfarons, Dieu dit ben, « Je vais vous juger pour le mal que vous avez fait. Vous étiez 100% responsable du mal que vous avez commis. » La Bible nous décrit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais que nous ne sommes pas créés comme des robots, que nous sommes créés que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si quelqu'un est physiquement forcé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, alors bien sûr, c'est son esclavage qui est totalement responsable de ça. Si un robot fait quelque chose de mal, c'est le programme du robot qui dysfonctionne. On est d'accord, ok ? Mais imaginez ça pour un homme. Confronté à notre acte, que notre excuse serait de dire « je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai été physiquement forcé de le taper. » Et du coup, c'est ma main qui est responsable, ce n'est pas moi. C'est un discours qu'on ne peut pas entendre, quoi. Imaginez que quelqu'un vienne devant le juge et dise, pour s'excuser de son crime, « je ne pouvais pas m'en empêcher, votre honneur, j'ai été forcé de le faire par ma nature. » parce que je suis un homme pécheur, alors il ne faut pas me condamner. Non, l'homme pécheur est responsable de son comportement. Okay ? La servitude du péché n'excuse pas notre acte, nos actes. Si un homme tue en état d'ivresse, il ne peut pas nier sa responsabilité pour autant, il est responsable d'être devenu ivre. Et le péché en nous, nous fait vivre ivre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette image. Enfin, j'essaie de l'imaginer. Mais comme on l'a déjà exposé plein de fois dans l'Église, et on est tous d'accord là-dessus que nous sommes responsables. Voilà. Mais si le péché éliminait la responsabilité, logiquement, plus on pêche, moins on est responsable. C'est un non-sens, quoi. OK ? Les enjeux concrets... Pour nous, c'est qu'il faut, et je conclurai juste après ça, c'est qu'il faut préserver dans notre théologie toujours les deux doctrines. Dieu décrète tout ce qui se produit et nous sommes 100% responsables de nos actes. c'est de maintenir ces deux doctrines ensemble et se rappeler que Dieu nous dit qu'elles sont compatibles, même si ça nous dépasse, qui nous garde dans la saine doctrine. Parce que si on se dit que Dieu est souverain de tout et que nous ne sommes pas responsables, on va justifier le mal. Si on dit que nous sommes tous 100% responsables et que derrière nous, il n'y a pas de Dieu souverain, nous allons vivre dans la peur permanente et dans l'angoisse, comme des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais de connaître que les deux sont vrais nous permet de vivre dans la sagesse, en se considérant, comme la Bible nous le dit, responsable, et en se rappelant que Dieu est souverain. Et ainsi, agir comme Abishai et Joab, en se disant « ayons courage, faisons ce qui plaît à Dieu, et Dieu, lui, derrière, est souverain sur ce qu'il veut. » Ok ? Et ne croyons pas que ce sont juste des élucubrations, parce que ça touche directement au cœur de l'Évangile. Si l'homme n'est pas responsable moralement de son péché, alors pourquoi la croix ? Cette compréhension, à chaque fois, ça va exalter, rehausser la souveraineté de Dieu, et ça va aussi nous rappeler notre responsabilité, la responsabilité de l'homme. Aussi, ce que ça me rappelle, que nous sommes totalement responsables de notre péché, c'est que Dieu bénit les hommes en dépit de leur péché et non grâce à leur péché. C'est-à-dire que les desseins de Dieu s'accomplissent par le péché, parfois. Zoé, je te vois dans le rouge. Des souffrances. Oui.
Et sans pause. Et du coup, c'est un découragement et qui reste malgré reste ancré quand même dans la foi et dans la confiance à Dieu, c'est chaud quoi. Et puis c'est pas des petits trucs quoi, c'est des décès, c'est des maladies, c'est des grosses choses et on a du mal à voir qu'est-ce qui
Vous voulez réagir ?
Je pense que c'est parmi les chrétiens, ça existe, mais parmi les non-chrétiens aussi.
Bien entendu.
J'ai un exemple. Daniel me dit, depuis 40 ans qu'il soigne dans son cabinet, il me dit qu'il y a des familles qui sont bien, enfin c'est des belles familles, mais qui sont éprouvées en permanence, toujours. Il a vu des familles mais qui ont connu des épreuves terribles et sans savoir pourquoi. Et il me dit, il y a vraiment des familles qui vivent un grand malheur par rapport à d'autres. Ouais. Alors, c'est pas forcément... Il y a des familles qui vivent le malheur parce qu'elles s'y mettent dedans. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, voilà, elles font tout pour s'y mettre dedans. Et c'est un grand mystère pour lui parce que voilà, il en a vu et c'est incompréhensible. Ouais. Et je pense que ça touche autant les chrétiens que les non-chrétiens.
Voilà. Oui, tout à fait. Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Non, ça nous éprouve et la réponse, il y en a pas, on ne sait pas pourquoi, mais en tant que chrétien, moi ce que je trouve merveilleux, c'est que je me dis que je peux aller, je ne crois pas que c'est dans la réflexion, par exemple, quand je suis dans l'épreuve ou quand je pense à des gens qui sont dans l'épreuve, la réflexion théologique, je dois l'avoir avant, c'est de la prévention, je dois être enraciné vraiment dans les vérités de la parole, mais quand tu es dans l'épreuve, tu vas regarder un psaume, et où tu vois le gars qui se plaint et qui dit « Seigneur, j'espère en ton salut, quoi. » Et on voit que des hommes de Dieu, qui, je pense qu'un gars comme David, qui était bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans son intimité avec Dieu, face à la souffrance, il dit simplement « Mais secours-moi, sois comme un aigle qui vient me prendre et qui m'arrache de mes ennemis, sois mon rocher, sauve-moi, quoi. » Il y a juste ce cri du cœur qui est là. Finalité de cette réflexion. Quelle est la finalité de l'exercice de Dieu, de sa souveraineté ? Sa finalité ultime, c'est sa gloire. À la croix, et ça je crois que c'est aussi une réponse pour nous, face à l'incompréhension de l'analyse des situations, de regarder à la situation, celle de la croix. À la croix, Dieu se glorifie ultimement en utilisant le plus grand mal jamais commis par l'humanité et concevable pour détruire le mal. Dieu utilise le mal pour détruire le mal. Dieu a utilisé le mal qui a été fait envers Christ pour qu'au travers de l'œuvre de Christ et de son sacrifice, Dieu puisse régler définitivement le problème du mal. Et la Bible nous présente un Dieu qui est aussi souverain, comme on l'a dit, mais un Dieu aussi qui souffre, qui a appris toutes choses par les souffrances qu'il a endurées par l'incarnation, par l'humiliation. Un Dieu qui s'est fait homme et qui a souffert, qui s'est soumis à l'injustice des hommes. Pas simplement un Dieu qui est distant et qui juge, mais qui a mis en œuvre un plan de rédemption au travers duquel il nous fait connaître à quel point il est grand. Et les souffrances de Christ ont pour but de nous sauver des plus grandes souffrances possibles et imaginables, celles du jugement éternel. Et les souffrances qui devaient être les nôtres sont devenues les siennes pour qu'il puisse nous sauver. Et Dieu a utilisé le mal pour ça, de l'homme, le péché, pour arriver à nous sauver du péché. Et Dieu montre ainsi sa sagesse infinie, comme le dit Paul. Dieu cherche, par ses décrets, à manifester sa gloire, mais nous ne faisons que l'entrevoir. Nous la comprenons que partiellement aujourd'hui, mais un jour, elle nous sera pleinement révélée et manifestée dans l'éternité. Sa propre gloire est le motif le plus élevé pour lui. Oui.
Est-ce que tu pourrais définir ce que tu entends par la gloire de Dieu?
Ah. Ouais. Alors très bonne question. Comment la Bible définit la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation la plus grande de ses qualités et c'est le rayonnement de ses perfections. Si tu prends Ésaïe 6, verset 3, verset qu'on a cité tout à l'heure. Ésaïe dit, ils criaient les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine, on devrait s'attendre, de sa sainteté. » Mais c'est la gloire de Dieu qui remplit la terre. Dieu est saint et rayonne de sa... Imaginez, la gloire, c'est comme Dieu est le soleil, et sa gloire, c'est les rayons du soleil qui réchauffent tout, qui donnent de la lumière à tout. Et Dieu manifeste sa gloire, comme ça. Donc c'est la façon dont Dieu exprime ses qualités, et on cherche tous la gloire, et quand quelqu'un cherche la gloire, et quand on dit que quelqu'un est glorieux, on le voit, et on voit ses trophées, Et ses trophées, sa médaille d'or autour, quand Teddy Riner, là, il avait sa 10e médaille d'or, on se dit, waouh, il a atteint la gloire, quoi. Ça rayonne, et on le sait, son palmarès, ses qualités parlent pour lui, et on s'en plante plein la tronche. C'est ça. Et le rayonnement de ses perfections, peut-être, et la manifestation de toutes ses qualités, de toutes ses caractéristiques, quoi. C'est Dieu rayonne de sa gloire. Vas-y, Nat. Oui, alors vas-y. Elle est coton ?
Oui, parce qu'elle me turlupine depuis très longtemps.
Oh, purée.
En fait, je suis venue avec beaucoup d'attentes ce soir. Et
mince.
Tu as répondu, tu as confirmé des choses que j'avais moi-même réfléchies. En particulier, je vais te donner mon propre raisonnement.
Oui,
quand
vas-y.
Tu dis, Dieu utilise le mal pour régler définitivement le mal. Cette question-là, je me l'étais posée en disant, finalement, Dieu a permis la création. Alors qu'en fait, le mal préexistait. Et je me suis dit, au final, grâce à cette création, nous, dont on fait partie, le mal, Satan, sera définitivement vaincu, alors qu'il préexistait avant notre création.
Oui.
Et ça, j'en ai fait la gloire de Dieu, parce que ça, cette victoire sur le mal, qui est Satan, elle va permettre à sa gloire de rayonner encore plus, puisque lui faisait obstacle, puisqu'il est l'obscurité.
Tout à fait.
Mais, et la deuxième question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est, et peut-être tu n'en as pas, pourquoi il n'a pas éliminé le mal
avant,
sans passer par la création et à nous imposer tout ce qu'on a? C'est horrible ma question.
Qui déjà s'est posé cette question? Voilà, donc tu vois, t'es pas folle, on s'est tous posé la question, pourquoi Dieu, même pas, n'a-t-il permis que ça se passe, mais si on reste dans le vocabulaire biblique, pourquoi Dieu a-t-il décrété de toute éternité qu'il y aurait la chute? Je ne peux pas répondre. Mais je vais faire une piètre tentative. Sans la chute, on connaîtrait le Dieu de Genèse chapitre 1 et 2. D'accord ? On connaîtrait Adam. Grâce à la chute, on connaît le Dieu incarné en Jésus-Christ. Grâce à la chute, on connaît à quel point Dieu nous aime parce que le Fils est mort pour nos péchés. Et avant qu'on l'aime, lui nous a aimés de toute éternité. Et la démonstration de la croix, quand Jésus parle de la croix dans Jean en particulier, il dit, maintenant est venu le temps de te glorifier. Et Jésus savait qu'en venant sur terre, quand il allait être sur la croix, il allait rendre, manifester la gloire de Dieu. En révélant à quel point, par la croix, il nous aime, et à quel point il est juste et ne tolère pas le mal, à quel point il est saint. On connaîtrait le Dieu saint, on connaîtrait le Dieu bon, miséricordieux, mais on ne le connaîtrait pas tel qu'il est révélé par la croix. C'est ce qu'il y a dans les Écritures. Mais ça nous dépasse bien au-delà. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que de toute éternité, il y a ce qu'on appelle l'alliance de la rédemption, où le Père a décrété, en dehors du temps, d'envoyer le Fils, où le Fils a demandé au Père et veut être envoyé pour rendre gloire au Père, et l'Esprit qui dit qu'il a le rôle d'appliquer les bénédictions accomplies obtenu à la croix pour son peuple. De toute éternité, Dieu a décrété ça. Sachant qu'il allait souffrir, sachant que ça allait lui connaître et que Christ a connu à la croix la plus grande souffrance qu'aucun être ne connaîtra, puisqu'il a connu la souffrance du jugement de Dieu, une souffrance cosmique, quoi. Pas simplement psychologique, mais aussi spirituelle. Et, enfin, l'agonie de Christ est la pire des agonies. L'injustice dont Christ a été la victime est la plus grande des injustices. Et sans la croix, on ne connaîtrait pas à quel point Dieu nous aime et est prêt à affronter ça pour nous montrer à quel point Dieu, il est bon pour nous. Et donc Dieu, dans sa sagesse de toute éternité, a décrété la croix. A décrété avant la croix, a décrété la chute.
C'est...
Ouais, mais ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est un brouillon et une faible piste. Mais juste avant que Laure, tu poses ta question, comme ça, on en vient autant de questions. Mais j'avais juste un deuxième point de conclusion, et je pense que ça va répondre peut-être à plusieurs choses. C'est que nous sommes poussés à l'humilité. En fait, on regarde des textes qui nous exposent des vérités. Ces vérités, on doit les saisir par la foi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre qu'à la fois nous sommes complètement responsables et que Dieu est complètement souverain et qu'il a tout décidé d'avance. Ça nous pousse à l'humilité. Dieu a toujours des raisons pour ce qu'il fait, mais des raisons qu'il ne nous révèle pas. Et c'est pour ça qu'on tâtonne, et que là, ma réponse, je dis bien que je veux qu'elle soit prudente, parce que Dieu ne justifie pas l'existence du mal, on ne sait pas pourquoi il y a eu la chute de Satan. Il y a des mystères, et c'est ce que Henri Blocher parle d'un mystère opaque. Et j'aime bien ça, il dit c'est comme une vitre opaque, on devine derrière des choses, hein, mais on ne voit pas clairement. Et par contre, il y a des choses qui nous sont montrées très clairement dans les Écritures. Et il faut accepter... et rester humble et ne pas vouloir aller au-delà des textes ou rentrer dans des spéculations qui prêteraient à Dieu peut-être des intentions ou des motifs qui ne sont pas les siens. En tout cas, ce qui est clair, qui n'est pas opaque, c'est que Dieu est parfaitement saint, qu'il ne commet pas le mal, qu'il est juste, qu'il est lumière, qu'il est le mal, etc. Mais on voit qu'il l'utilise à des fins qui nous dépassent. Voilà, c'est simplement ce constat-là. Et donc, ça nous envoie à l'humilité parce qu'on est dans l'incapacité réelle à concevoir les bonnes raisons qui poussent Dieu à agir comme cela. Mais si on dit parce qu'on est incapable de comprendre pourquoi Dieu fait cela, suivez mon raisonnement, si on dit que parce qu'on est incapable de concevoir pourquoi Dieu fait cela, ça veut dire qu'en réalité il ne le fait pas, eh bien avec ce présupposé-là, on se fait l'égal de la sagesse de Dieu. Si moi je ne peux pas le concevoir, Dieu ne peut pas. Mais je ne suis pas Dieu. Sa sagesse est infinie, c'est-à-dire que sa sagesse n'a pas de fin dans sa quantité, dans sa qualité. Moi, je suis un être humain et ma raison est finie. Ma raison, en plus, est entachée par le péché et je ne peux pas voir les réalités glorieuses éternelles du plan de Dieu. Et si Dieu a décidé d'inclure le péché et le mal sans que les actes par lesquels ces choses arrivent remettent en question sa justice et sa sainteté, je dois l'accepter par la foi. Humilité, soumission. Tout ce que nous avons pour comprendre Dieu est ce qu'il a choisi de nous révéler de lui dans sa parole. Et pensez à ce qu'a vécu Job. Je pense que ce qu'on a vu là, ça met en perspective où Job dit « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est accessible pour toi, inaccessible pour toi. Et notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Laure.
Ça va être un peu... C'est bon, c'est allumé. Merci. Donc ça va être un peu difficile à formuler, je pense, mais je rebondis sur ce que tu disais, Nathalie. Tu parlais d'un mal préexistant avant la création. Alors moi, c'est une expression qui m'a un peu choquée, du coup, mais que je comprends dans le raisonnement que Dieu, à travers la création et son plan de rédemption, élimine le mal qui préexistait.
Définitivement, ouais.
comment est-ce qu'on peut concevoir ça, même si ça me parle, en se disant que Dieu est à l'origine, il n'y a rien d'autre que lui, et que finalement on ait cette image de sainteté. Comment définir le mal finalement, en fait, parce que ça, de plus en plus ça devient c'est difficile à nommer, en fait.
Oui. Comme, alors c'est une sacrée question. Je te remercie. On peut définir le mal de plusieurs façons. Le mal, d'un point de vue, on va dire, ontologique, c'est-à-dire dans l'essence de ce qu'il est, le mal, en soi n'existe pas. C'est-à-dire que le mal est toujours une altération d'un bien. Le mal, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le viol, c'est l'altération, la violence à la place de l'amour, et la haine à la place de la grâce. Tu vois. C'est une altération, c'est, tu te souviens, l'image de ce qui est beau et de ce qui est cassé. D'accord, imaginez une feuille de papier, c'est le bien, et le mal, en fait, c'est l'iniquité, quoi. C'est ce qui tord, c'est un bien qui a été tordu. D'accord. Ça, c'est quand on réfléchit d'un point de vue ontologique. D'un point de vue moral, le mal, c'est la transgression de la loi de Dieu. D'accord. D'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire de ce qu'on se préoccupe du réel, de la vérité, etc., de ce qui est, le mal s'explique par l'histoire. Il n'existe pas en tant que tel, mais quand tu veux expliquer le pourquoi du mal, quand tu es chrétien, tu ne peux pas parler, comme dans Star Wars, d'existence de la force et du côté obscur. Non, tu es obligé de parler de personnes, d'un théâtre historique, de la chute d'Adam, de la tentation, etc. etc. Voilà, tu vois, il y a plein de... Mais c'est, là, je peux simplement que balancer des trucs comme ça en essayant de me la raconter avec 2-3 mots, 3 syllabes, quoi. Mais c'est...
Merci.
Oui. Attends, prends le micro, comme ça on entend tes questions.
Actuellement, je lisais l'Épître aux Romains,
oui.
Et je rebondis sur ce que dit Laure. Quelquefois, j'avais l'impression que Paul parle du mal comme d'une, comme d'une chose, d'une personne, d'une entité qui n'est pas nous. Mais quand il dit « quand je veux faire le bien, je ne peux pas
oui. »,
mais c'est le mal qui est en moi.
Oui,
qui, enfin, je dis,
oui. Oui, c'est ça. C'est Romains 7. Oui, tout
voilà.
Tout fait.
C'est comme si c'était une chose qui est en moi.
Oui, c'est une loi. Il utilise le mot d'une loi.
Et on se demande à quel moment est-ce qu'on fait le mal ou à quel moment, finalement, on subit le fait qu'il est là en nous, quoi.
Alors, c'est
assez
ouais, alors,
c'est, déstabilisant.
C'est, ouais, ce qu'est le péché, le péché a une dimension juridique légale, mais aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on hérite de la culpabilité d'Adam. D'accord, on hérite tous du péché dans ce qu'on est. D'accord. Dès qu'on est conçu, la fusion des cellules, on est pécheur. C'est dans notre identité. D'accord ? Donc ça, c'est l'héritage de la chute d'Adam, où nous sommes tous contaminés, on va dire, pour parler comme ça, tous coupables, quoi. On fait partie d'un même peuple qui est rebelle. Hein, voilà. Mais le péché est aussi, n'est pas que ça, est aussi une réalité en nous spirituelle de ce qui nous pousse à être en rébellion contre Dieu et qui nous aveugle à la vérité de sa parole. Et Paul utilise en Romains 7 l'image d'une loi comme pour parler d'une loi, comme les lois naturelles. Par exemple, tu ne peux pas te soustraire à la loi de la gravité. Tu tireras toujours vers le centre de la Terre. Tu auras beau essayer de sauter, tu ne peux pas te soustraire à cette loi de la gravité, tu en es prisonnier. Eh bien, Paul dit la même chose. Il dit le péché, il est en nous, et c'est une loi qui nous pousse à faire. Et il y a quelque chose qui est en nous qui nous pousse à faire le mal. Et la seule solution, c'est l'esprit. Et c'est ce qu'il développe dans Romains 8, où il dit que la loi de l'esprit, comme si c'était une loi qui était plus forte, nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Ainsi que celui qui a l'esprit vive par l'esprit. Et c'est comme, moi j'utilise souvent cette image-là, dire bah, il y a la loi de l'attraction, et c'est comme si le Saint-Esprit, lui, c'était une force qui a la capacité de m'arracher de l'attraction et de me tenir dans la volonté de Dieu. Vous voyez ? Voilà. Et le péché, c'est aussi la manifestation de cette réalité en nous. La Bible parle du péché par les actes, par les pensées, par les mots qu'on dit, c'est aussi le péché, le mal. D'accord ? Donc c'est comme un diamant à plusieurs facettes, une problématique à plusieurs facettes, une facette juridique, héritée, c'est on est pécheur, on a besoin d'être lavé de cette culpabilité héréditaire, on a besoin d'être délivré de cette puissance qui est en nous, de ce qui nous pousse à faire le mal qu'on ne veut pas et qui nous empêche de faire le bien qu'on souhaiterait faire. Et on a besoin de repentance pour tous les actes qu'on commet et qui déplaisent à Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le Père dans la Trinité répond à ce problème-là, quoi. Le Fils est mort à la croix et le sang nous lave. Le Père nous pardonne quand on confesse nos péchés au nom de l'œuvre du Fils. Et l'Esprit vit en nous pour nous aider à mettre à mort progressivement le péché qui a d'ores et déjà perdu son autorité mais pas sa puissance et qui est toujours agissant en nous. Et c'est un combat duquel on sera complètement délivré dans l'éternité, quoi. Chaos. Pas d'autres questions ?
Juste oui. Une question sur quand on dit que Dieu a tout décidé d'avance, ouais. Ça pose la question du libre arbitre.
Oui.
Et justement, pour répondre à ça, on est d'accord que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que Dieu est 100% souverain, mais que l'homme est malgré tout 100% responsable de ses actes.
Oui.
C'est de cette manière qu'on répond.
Alors, tout à fait, ouais. L'homme est 100% responsable. Mais j'ai dit, l'homme est... Alors, il faut comprendre, il y a deux notions de liberté. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais il y a deux notions de liberté. Il y a la liberté qu'on appelle déterminée, c'est-à-dire que tu as, dans ce sens, que tu as des vrais choix que tu fais, donc d'une certaine manière une vraie liberté, mais tes choix sont contingents... sont liés, découlent nécessairement d'influence. Par exemple, si tu fais le choix de parler et de penser, tu penses librement, mais tu n'as pas la liberté de penser dans une autre langue qu'en français. Parce que tu es otage de ta langue, de ta culture, de ton éducation, etc. Et tu es aussi dépendant, otage du péché qui vit en toi. Et donc, ça, c'est une certaine compréhension qui me semble est celle biblique, c'est qu'on a des vrais choix, mais on n'a pas une liberté, on n'est pas hermétique aux facteurs extérieurs ou intérieurs qui nous empêcheraient de faire ces choix-là. Typiquement, tu ne peux pas choisir de ne pas pécher. Donc, tu as un certain choix, mais tu es quand même esclave de ton péché. Et Martin Luther... utiliser une expression que j'aime bien, quand on parlait du libre arbitre, lui parlait du serf arbitre, dans le sens le serf, vous savez, celui qui est serviteur du Seigneur. Et il dit que notre arbitrage, il est esclave, finalement, de plein de choses. Donc il y a une vraie responsabilité, mais qui est quand même influencée et qui n'est pas totalement libre. Et tu as une autre compréhension de ça, c'est ce qu'on appelle le libertarianisme. C'est-à-dire une liberté, comme l'homme serait absolument capable de faire tous les choix qu'il veut sans aucune influence au final. Or, les Écritures nous disent qu'un être est capable de ça, c'est Dieu. Parce que Dieu lui-même n'est dépendant de rien et n'a besoin de rien en dehors de lui-même pour choisir. Et il fait ses choix sans aucune influence et sans avoir besoin de préconnaître, sans avoir besoin de décider par rapport à ce qu'il va voir ou à ce qu'il sait d'extérieur qui pourrait se produire, il décide en lui-même, selon le conseil de sa sagesse, de sa bonne volonté éternelle. avant de qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc les concepts de vérité c'est, et la liberté dans la Bible, dans le Nouveau Testament qui nous est présenté à nous qui croyons, c'est qu'on est libre de ne pas pécher. Dans Jean 8, vous entendrez la vérité vous rendra libre. Et le contexte c'est par rapport au fait que les pharisiens eux pêchent parce qu'ils ne l'écoutent pas et qu'ils ne sont pas dans la vérité. D'accord. Donc la vraie liberté qu'on peut clamer haut et fort, c'est la liberté de ne pas pécher. Et au ciel, dans l'éternité, est-ce qu'on sera libre? Oui. Oui. On sera parfaitement libre tout en étant absolument incapable de pécher puisque le péché aura totalement été détruit. Donc ceux qui aspirent à une liberté de tout, voilà, et bien dire mais il ne faut pas aller au ciel parce qu'au ciel, Dieu va te priver d'une liberté pour toujours. Hein, c'est de choisir entre le bien et le mal. On sera débarrassé, lavé de ça. Et amen. Enfin, enfin quoi. On sera libéré du combat, de la sanctification. On le sera quoi. On aura été glorifié. On sera enfin dans la présence de Dieu et libéré de toutes les affres du mal quoi. Voilà.
C'est la différence avec les musulmans qui disent Inch'Allah.
Voilà, le fatalisme.
Toujours oui. Le fatalisme et c'est terrible parce oui. Que. Enfin, tout, voilà, c'est oui. Comme ça. Et puis c'est tout. Enfin, je trouve que ça enlève toute cette notion de liberté que Dieu nous a donnée aussi. Et,
tout à fait.
Enfin, c'est terrible, je trouve. Parce
ouais.
Que,
ouais.
Enfin, je ne veux pas développer plus, mais c'est...
Oui, oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible.
Quand on parle avec des musulmans, on sent qu'il y a une sorte de tristesse derrière. Ouais. Enfin,
et il n'y a pas d'espoir de bonté de Dieu, quoi.
Non.
Et pour nous, l'expression la plus parfaite, ce qui va démontrer qu'on aura vraiment compris et accepté par la foi ces deux vérités-là, ça sera notre vie de prière. Si tu crois que ça ne dépend que de toi, pas besoin de prier. Parce que, aide-toi, le ciel t'aidera. Quoi. Si tu crois que ça ne dépend que de Dieu et que Dieu ne t'implique pas et n'utilise pas tes actions pour accomplir ses desseins, et ne souhaite pas te voir participer à ses plans éternels, ça ne sert à rien de prier, de toute façon Dieu fait ce qu'il veut. Mais regardez comment Paul prie sa vie de prière, comme il supplie, enfin, je veux dire, c'est magnifique. Quoi. Et je pense que ces deux vérités-là sont là pour nourrir notre vie de prière, quoi, notre piété. Voilà, je pense qu'il... Oui, encore une question, Alain-Pierre. On dit que c'est la dernière ?
Dans les proverbes, on trouve des fois des affirmations assez abruptes, comme dans ce proverbe dans 16. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
Oui.
Et je crois que si on connaît pas la miséricorde de Dieu pour soi-même, on va tordre ce verset, puis on va se dire ben, c'est pas la peine d'évangéliser, c'est pas la peine de
tout à fait.
De toute façon, tout est...
si tu perds l'équilibre entre les deux, je veux dire, c'est le même Paul qui avait cette vision hautement de la souveraineté de Dieu qui disait malheur à moi si je n'évangélise, quoi. Et il avait bien compris que Dieu était souverain, mais que Dieu a des instruments pour accomplir ses plans, et c'est l'Église, et que l'Église est au service du plan rédempteur de Dieu qui est d'aller chercher. Tous les hommes et d'annoncer à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Ça c'est clair et net. Mais Dieu manifeste autant sa gloire en jugeant le coupable qu'en lui pardonnant. Parce que Dieu, dans tous les cas, est glorifié. Et c'est ce qu'on voit. L'exemple de Pharaon est une préfiguration. Dieu manifeste sa gloire en libérant son peuple, tout en confondant le pouvoir de Pharaon et le détruisant. Et dans l'éternité, l'enfer et le paradis exaltent la gloire de Dieu. Et Dieu manifeste, et autant glorieux quand il décide de punir, parce que Dieu montre qu'il est saint, qu'il est juste, et que le mal doit être puni, que quand il montre sa bonté en pardonnant. Très bien, est-ce que... peut-être une personne voudrait prier ? Noémie ? Oui ? Allez. Amen. Bonne nuit.
Ouais. Montre d'une certaine manière en fait le leur envie de d'avoir une